Les deux orphelines, troisième partie, chapitre 5. Où allait-il? Où le chevalier de Vaudreuil pouvait-il aller chercher un soulagement à l'exaltation de son esprit, un apaisement à l'émotion qui étreignait son cœur? Auprès de qui trouverait-il une consolation à la douleur qu'il éprouvait, du danger qui menaçait cette tante affectionnée à l'égal d'une mère, si ce n'est auprès de celle qui depuis 3 mois occupait sa pensée tout entière? Auprès de la jeune fille qu'il avait sauvée au péril de sa vie, auprès de la vierge éperdue qu'il avait arrachée de ce lieu de débauche, de ce pavillon du bel air, où sa pudeur s'était effarée sous le regard des courtisanes. Auprès de la vertueuse créature qui avait eu confiance en lui, qu'il avait respecté comme une sainte et qu'il adorait maintenant sans oser le lui dire. Roger, chassé par son oncle, se rendait auprès d'Henriette Gérard, dont il était devenu l'ami fidèle, le protecteur respectueux, depuis cette nuit à jamais néfaste où elle avait été brusquement séparée de Louise pour être jetée dans les bras du marquis de Presles. Après lui avoir rendu la liberté, en lui ouvrant l'épée à la main les portes du pavillon du Bel Air, Roger s'était tout de suite informé de la demeure de celle qu'il venait de délivrer. Son intention avait été de mettre son carrosse à la disposition de l'inconnue et de la faire conduire à l'endroit qu'elle aurait désigné sans vouloir lui imposer plus longtemps sa présence. Henriette, troublée, la tête perdue, s'était laissée accompagner jusqu'à la portière de la voiture. Mais là, le sentiment de la réalité lui était revenu. « Monsieur, murmura-t-elle en tremblant, où cette voiture va-t-elle donc me conduire ?»« Maintenant que vous voici libre, répondit Roger, j'attends vos ordres pour donner à mes gens l'adresse que vous voudrez bien indiquer. » Et respectueusement, la tête découverte comme s'il eût parlé à quelque grande dame. « Après cela, mademoiselle, ajouta-t-il, il ne me restera de cette aventure que le souvenir d'avoir eu la bonne fortune de pouvoir répondre à votre appel désespéré. « Vous m'avez sauvé, monsieur, » dit Henriette, et s'accrochant des deux mains au bras de Roger. « Je ne trouve pas d'expression pour vous remercier comme je devrais le faire et pour vous exprimer ma vive reconnaissance. Mais pardonnez-moi, monsieur, de m'attacher à vous si généreux, comme à un sauveur dont la tâche n'est pas entièrement accomplie. » Le chevalier n'avait pas été maître d'un mouvement de surprise. En voyant cette jeune fille éplorée se pendre à son bras, désespérément, comme si elle eût craint qu'il l'abandonnât, en voyant ses mains frémissantes se joindre comme pour une prière, il demeura interdit. La voix suppliante d'Henriette le tira de cet état d'étonnement. La pauvre enfant entamait le récit, entrecoupé de sanglots, de tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle était descendue avec Louise du coche d'Évreux. Elle parla avec déchirement de l'angoisse dans laquelle devait être plongée la pauvre aveugle, demeurée seule, exposée à tous les hasards, à tous les dangers. Elle raconta, au milieu des larmes qui mouillaient sa voix épuisée par l'émotion, qu'elle avait entendu, alors qu'on l'entraînait, Louise lui crier « Henriette, réponds-moi, parle-moi !» Elle dit son désespoir de n'avoir pu s'arracher des mains de ceux qui avaient comploté son enlèvement, sa terreur de savoir sa compagne, sa chère aveugle, seule dans cette ville, se désolant, s'affolant, mourante sans doute de chagrin et de peur. Elle implora enfin le secours de ce défenseur que la Providence lui avait envoyé. « Ne m'abandonnez pas !» s'écria-t-elle en levant ses beaux yeux noyés de larmes sur Roger. « Ne nous abandonnez pas, de grâce !» Aidez-moi à rejoindre ma sœur bien-aimée, ma pauvre Louise, qui se jettera à vos pieds pour vous remercier de nous avoir réunis. » Et dans l'explosion de sa douleur, Henriette fléchissait les genoux. Le chevalier de Vaudreuil la retint dans ses bras, puis la soutenant jusqu'à la voiture. « Venez, » dit-il, maîtrisant avec peine son émotion. Lorsqu'il eut pris place dans le carrosse, à côté de la jeune fille, il dit au valet de pied qui attendait ses ordres. « À l'entrée du Pont-Neuf, au bureau des messageries. » La première idée qui pouvait lui venir, en effet, n'était-ce pas de se rendre à l'endroit où Henriette avait été séparée de sa compagne? Et pendant que l'équipage roulait vers la place Dauphine, où s'arrêtait le coche de Normandie, Roger cherchait à rassurer la jeune fille qui se lamentait à ses côtés. autant pour satisfaire une curiosité bien naturelle en pareil cas que pour détourner l'esprit de l'affligé des sombres pensées qui l'assaillaient, le chevalier se fit raconter l'histoire de ces deux jeunes filles arrivant ainsi seules à Paris. Henriette le mit au courant de tout. Elle lui dit son nom, taisant par un sentiment de discrétion la situation réelle de Louise dans la famille Gérard. Elle n'omit rien de ce qui pouvait faire que le jeune gentilhomme s'intéressât à deux orphelines. Et Roger s'était laissé aller peu à peu à une sympathique émotion. Ce récit si simple, prononcé au milieu des larmes, l'avait très vivement touché, et il avait cherché des paroles de consolation pour cet affligé qui se confiait à lui. Lorsqu'Henriette eut achevé de parler, Roger était encore sous l'impression de ce récit attendrissant, sous le charme de cette voix si douce, voilée par les larmes. Il gardait le silence, laissant sa pensée errer dans une rêverie pleine de regrets. Il se disait que bientôt, l'aventure à laquelle le hasard le mêlait si intimement allait prendre fin, que Louise, une fois retrouvée, il ne reverrait plus celle qui lui inspirait un si vif intérêt. Le carrosse continuait à avancer d'un train rapide par les rues désertes. On rencontrait de temps à autre quelques escouades du guet marchant silencieusement, des agents de la prévôté à l'affût à l'entrée des passages sombres ou groupés dans les carrefours. Le silence de cette grande ville provoquait chez Henriette un violent serrement de cœur. Elle pensait à Louise, isolée au milieu d'une place et obligée d'attendre le secours, au devant duquel elle ne pouvait courir. Et dans son impatience d'arriver, elle penchait la tête à la portière, cherchant à percer de son regard anxieux le rideau de brume qui l'entourait. Puis, fatiguée par cette longue tension de l'esprit sur un même objet, par cette fixité des yeux sur un même point, la malheureuse se renversait, désespérée, au fond de la voiture. Et Roger sentait que ce pauvre corps frissonnait, que ses mains tremblantes se tordaient nerveusement. Il entendait les gémissements étouffés s'exhalant de ce sein haletant. Alors, lui aussi, se sentait gagné par cette impatience. Il oubliait la séparation imminente pour ne plus désirer que mettre un terme aux souffrances dont il avait sous les yeux le navrant spectacle. Tout à coup, cependant, il éprouva comme une appréhension. Dans son désir de se rendre utile à la jeune fille, il n'avait pas réfléchi que cette course pouvait demeurer stérile et qu'il était invraisemblable que l'aveugle fût demeuré à la même place où Henriette l'avait laissée. Il s'était rendu à la prière de la pauvre fille qui le suppliait de la conduire au bureau des messageries. Mais maintenant qu'on approchait du but, il redoutait une poignante désillusion. Rien n'était moins certain, en effet, que la réussite de cette recherche. Alors, pensait-il, quel ne serait le désespoir de celle qui s'attendait à retrouver sa compagne, à la serrer dans ses bras? Prévoyant la déception à peu près certaine, le chevalier songeait à en amortir l'effet autant que possible. Mais comment s'y prendre? Ne serait-ce pas mettre le feu à cette imagination, si exaltée déjà, et provoquer une explosion de désespoir? Il n'eut pas le courage de porter à cet affligé ce nouveau coup, après tous ceux qui déjà l'avaient atteint au cœur. Dans sa pensée déjà toute pleine de cet infortuné que le hasard l'avait fait rencontrer pour la sauver, il se promit de se dévouer à elle comme un frère. Sa nature généreuse lui dictait déjà la conduite à suivre. Il dirait le secret de cette nuit d'émotion à celle en qui il avait toute confiance, à cette comtesse de Lignières, si affectueuse, si aimante et qui le regardait comme un fils. Il savait qu'il lui suffirait de faire appel à la généreuse sensibilité de son âme pour la trouver disposée à venir en aide à l'orpheline. Et réconforté par cette assurance, il s'habitua rapidement à l'idée qu'il pourrait continuer auprès de la jeune fille son rôle de protecteur. Lorsque le carrosse s'arrêta à l'entrée du pont Neuf, Roger sauta à bas de la voiture et tendant la main à la jeune fille. « Nous sommes tout près de l'endroit où vous avez été séparés de mademoiselle votre sœur, » dit-il. Henriette avait fait un mouvement pour s'élancer dans la direction de la place. « Le banc est là, » dit-elle, « de ce côté. » Sa main, qui tremblait, indiquait les arbres qui ornaient la façade du bureau des messageries. Le chevalier lui avait offert le bras. Elle le saisit et doucement elle entraînait Roger, haletante et fiévreuse. Mais de loin, le jeune homme avait vu que le banc était vide. Encore quelques secondes, et cette malheureuse, que l'espoir avait soutenue et qui, hélas, marchait à une terrible déception, subirait une nouvelle secousse. Roger s'arrêta pour tâcher de prévenir le choc qu'il savait imminent. Mais déjà Henriette avait, de son regard anxieux, parcouru la place et elle s'écriait « Mon Dieu ! Elle n'est plus là ! Elle n'y est plus !» Sa main se tendait, montrant la place où ne se trouvait personne. Et malgré cela, voulant s'approcher quand même du but qu'elle avait voulu atteindre, la pauvre affolée se précipita vers le banc. Elle y appuya les deux mains et demeura, comme frappée d'insensibilité, les yeux fixés sur la place qu'avait occupée Louise. Le chevalier la regardait, profondément ému par le spectacle de cette douleur muette. Il ne trouvait ni un mot, ni un geste pour la calmer. Une préoccupation toute personnelle s'imposait maintenant à son esprit. En s'offrant pour accompagner l'inconnue, ne s'était-il pas, pour ainsi dire, engagé à ne pas l'abandonner au hasard de la vie parisienne? Ce fut Henriette elle-même qui dut mettre un terme à ce silence et provoquer les consolations que Roger n'osait lui adresser. « Mon Dieu ! S'écria-t-elle en levant vers le ciel ses mains jointes. « M'abandonnerez-vous ? » Monsieur de Vaudrey s'inclina vers l'affligée et d'une voix assourdie par une émotion contenue à grand-peine. « La Providence ne vous abandonnera pas, mademoiselle, puisqu'elle m'a fait la grâce de me désigner pour être le défenseur de celle qu'on avait entraînée dans un piège infâme, puisqu'elle vous a envoyé la bonne pensée d'avoir confiance en moi. » Henriette eut un regard plein de reconnaissance. Au milieu des sanglots qui la suffoquaient, une parole de remerciement sortit de ses lèvres à l'adresse du généreux inconnu qui lui offrait respectueusement sa protection. Puis, s'accrochant à un espoir subi. « Monsieur, supplia-t-elle en indiquant le bureau des messageries, voudriez-vous m'accompagner là? C'est le bureau où s'est arrêté le coche. Peut-être pourra-t-on me renseigner ?» Le chevalier lui offrit son bras sans répondre et la conduisit à l'endroit désigné. Il n'avait pas voulu lui enlever cette dernière illusion, mais il avait bien vu de loin que le bureau était fermé. Lorsqu'Henriette, arrivée au seuil, vit la porte close, un cri s'échappa de sa gorge. Son désappointement se changea en une exaltation violente. Elle meurtrit ses mains à cogner contre cette porte. « Ouvrez ! Ouvrez de grâce » s'exclamait-elle dans son affolement. « Hélas, mademoiselle ! Dit doucement le chevalier. « Il n'y a plus personne à cette heure dans ce bureau, et il est douteux que les employés habitent la maison. » Mais, voulant donner une preuve de sa bonne volonté à faire tout le possible pour apaiser les angoisses de l'affligé, il ajouta aussitôt. « Du reste, je vais appeler, éveiller, s'il le faut, toutes les personnes qui ont leur logement au-dessus. Quelqu'un pourra sans doute nous dire ce qu'est devenue mademoiselle votre sœur. » Puis, frappant du pommeau de son épée contre la croisée de l'entresol. « Holà ! » cria-t-il. « Quelqu'un ? Ouvrez !» À cet appel pressant, prononcé d'une voix vibrante, une tête ornée d'un bonnet de coton parut dans l'entrebâillement de la croisée. « Qui êtes-vous ? » demanda une voix rauque. « Et que demandez-vous ? » « Excusez-moi, brave homme, répondit le chevalier, mais je désirerais obtenir un renseignement. « Et c'est pour ça que vous me réveillez, lorsque j'ai fatigué toute la journée ? » grommela la voix d'un ton bourru. L'inconnu allait refermer la croisée. Roger tira sa bourse et la montrant au bonhomme. « J'entends payer largement le service que vous me rendrez, » fit-il. « En ce cas, monseigneur, je descends à la minute. Rien que le temps d'enfiler mes choses. » Au bout de quelques instants, en effet, l'homme arrivait au seuil du bureau des messageries. C'était le préposé aux bagages. Arraché à son premier sommeil, il se frottait les yeux du revers de ses mains pour chasser les brumes qui obscurcissaient encore son esprit. Interrogé avec vivacité par Henriette, dévorée d'impatience, il fut tout ahuri par les questions qu'on lui décochait sans interruption. « Hein ? Qu'est-ce ? Que demandez-vous » fit-il en clignant de l'œil au louis d'or que le chevalier lui présentait du bout des doigts, et cherchant à se souvenir. « Une aveugle ? » s'écria-t-il. « Ah oui, je m'en souviens. Elle était là, près du banc. » Même que ça faisait de la peine de la voir seule. « Eh bien ? » demanda Henriette, les yeux braqués sur les lèvres de l'employé. « Eh bien, mamselle, elle n'y est plus. Et voilà tout ce que tu peux nous apprendre, Marot !» s'exclama Roger, furieux de cette réponse qui faisait passer la jeune fille par une douloureuse déception. Mais l'homme, complètement réveillé, fouillait dans sa mémoire. « Attendez donc » fit-il en se pinçant les lèvres entre le pouce et l'index. « Oui, je me rappelle avoir vu passer les soldats du guet. Ils emmenaient une femme. C'est peut-être bien la demoiselle que vous cherchez. » Puis il fit mine de rentrer dans le bureau en disant « Ma foi, c'est tout ce que je puis vous dire. » Quelque vague qu'eût été le renseignement, le chevalier y trouva une indication. « Je vais vous accompagner jusqu'au corps de garde du guet. Il y en a un à quelques pas d'ici, » dit-il à Henriette, qui chancelante s'appuyait sur son bras. Le valet de pied reçut l'ordre de faire suivre la voiture et les deux jeunes gens se mirent en marche. Ils s'engagèrent dans la rue Dauphine, vers le milieu de laquelle un réverbère rouge éclairait la porte du corps de garde. Roger activa le pas. Lorsqu'il ne fut plus qu'à une faible distance, un homme, se dégageant tout à coup de l'enfoncement d'une porte cochère, s'avança au-devant de lui. C'était un soldat du guet. « Halte ! » commanda-t-il, en levant une lanterne sourde à la hauteur du visage du chevalier. « Encore un enlèvement ! » ricana-t-il, et brutalement il ajouta. « Où conduisez-vous cette demoiselle, qui a l'air d'être prête à tomber en pâmoison ? Allons, venez vous expliquer avec le sergent. » Au mot d'enlèvement, Henriette avait tressailli. Le soldat ajouta d'un air capable. « Nous saurons bien remplir les ordres de monsieur le lieutenant de police. Et il faudra que tous ces beaux messieurs qui enlèvent les jolies filles soient fameusement madrés pour nous échapper. » Tout en parlant ainsi, le soldat avait fait mine de saisir le chevalier par le bras. Roger se dégagea brusquement et élevant la voix. « Vous vous trompez, » dit-il d'un ton ferme. « Si mademoiselle est tremblante et troublée, c'est qu'elle a été brusquement séparée de sa sœur, et nous sommes venus au corps de garde dans l'espoir d'obtenir des renseignements à ce sujet. » Puis, suivant le militaire, « Veuillez, je vous prie, » ajouta-t-il, « nous faire parler à votre chef. » On arrivait à la porte. Dans l'intérieur du corps de garde, trois hommes attablés faisaient une partie de reversi. « Sergent, » dit le soldat en introduisant Henriette et Roger, « voici des personnes qui voudraient avoir un renseignement. »« Sur quoi ?» glapit le sergent sans se déranger. Et il continua à jouer tandis que le chevalier attendait à quelques pas de la table. « Eh bien, que voulez-vous ? » reprit le sergent sans lever la tête. « Je veux, » dit le chevalier de Vaudrey avec hauteur, « que les soldats soient plus polis avec un gentilhomme. Je déplore que ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des habitants passent leur temps à jouer, tandis qu'en plein Paris, et presque en plein jour, on enlève des jeunes filles. « Ah ça !» riposta le sergent furieux et se levant pour regarder sous le nez celui qui osait lui parler ainsi. « Est-ce que vous avez des ordres à me donner ? J'ai à vous dire que monsieur de Lignières attend de ses subordonnés autre chose que ce que vous faites en ce moment. » Au nom du lieutenant de police, prononcé avec une certaine familiarité, le sergent s'était calmé comme par enchantement. Il avait même essayé de bredouiller une excuse. Roger ne lui laissa pas le temps de continuer. « Au surplus, » dit-il, « voici ce qui m'amène. Avez-vous connaissance qu'une jeune demoiselle... »« Aveugle, » ajouta vivement Henriette. « Ait été vue assise sur un banc de la place Dauphine, en face du bureau des messageries ?» Le sergent interrogea du regard ses hommes. Tous firent des signes de dénégation, à l'exception du soldat qui avait introduit Roger et Henriette dans le corps de garde. « Attendez donc, » fit-il. « Je crois en effet avoir vu quelqu'un sur le banc, pendant que cet autre se jetait dans nos jambes. « Vous savez bien, sergent, celle qui nous criait « Arrêtez-moi, je suis une voleuse !»« Ça se peut, » répondit le gradé avec importance. « Puisque vous avez aperçu celle que nous cherchons, » demanda aussitôt Roger, « pourriez-vous vous rappeler si elle était seule ?»« Non pas, il y avait quelques personnes auprès du banc. Pour cela, je m'en souviens. Par exemple, c'est tout ce que je sais. Nous avons amené ici la voleuse. » Henriette n'avait pu dissimuler un mouvement. Le chevalier s'en aperçut et lui dit « Étiez-vous encore là, mademoiselle, lorsque cette arrestation a eu lieu ?»« Oui, » murmura la jeune fille, « j'ai assisté à cette scène navrante. » Et baissant la voix « Pauvre fille, » dit-elle. Le soldat continuait à parler, racontant que lorsqu'il s'était agi de transférer la prisonnière à la salpêtrière, celle-ci, arrivée à l'entrée de la place Dauphine, avait fait subitement de la résistance, qu'elle avait même voulu s'échapper, pour courir après des gens qui filaient probablement le long des quais, car c'était dans cette direction qu'elle voulait s'élancer. « Assez causé !» interrompit le sergent, qui voulait, lui aussi, produire un effet oratoire. « Je sais la chose mieux que vous, puisque je suis votre supérieur. » Donc, Mon gentilhomme, continua-t-il en s'adressant respectueusement à Roger, cette voleuse piaillait comme un jet que l'on plume. Elle était comme folle. Il nous a fallu la ligoter comme un saucisson pour l'empêcher de nous échapper.
La malheureuse, dit Henriette qui se souvenait du désespoir de Marianne.
Oh, pour ça, mademoiselle, je suis de votre avis. Elle devait être fameusement malheureuse en ce moment-là, car elle criait avec rage.
Mademoiselle, méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous de l'afro.
Achevez, dit impérieusement Roger. Je n'ai plus rien à dire, mon gentilhomme, car j'ai donné l'ordre de bâillonner la voleuse pour ne plus l'entendre s'égosiller.
Mais, continua-t-il,
j'ai tout lieu de penser que c'est de nous qu'elle disait de se méfier, et qu'elle s'adressait, en parlant ainsi, à des voleurs de sa connaissance.
En tout cas, interrompit le premier soldat qui avait parlé, lorsque nous sommes repassés par la place, il n'y avait plus un chat ni sur le banc ni sur le pavé.
Et voilà tout ce qu'on peut vous dire, mon gentilhomme, conclut le sergent en saluant le chevalier dont le regard l'avait tout le temps tenu en arrêt.
Henriette avait eu une lueur d'espoir qui, hélas, venait de s'évanouir. Après les crises violentes, après la surexcitation de l'esprit, une défaillance insurmontable se manifestait en elle et elle se laissa emmener par le chevalier qui jugeait inutile de prolonger cette séance absolument stérile. Une fois hors du corps de garde, il passa le bras d'Henriette sous le sien et prit de nouveau la direction du Pont-Neuf. La jeune fille marchait, silencieuse. Elle subissait cet accablement qui se produit d'ordinaire après les grandes souffrances de l'âme. Mais le désespoir allait fatalement se réveiller en elle plus violent que jamais. Tout à coup, elle se cramponna des deux mains au bras de Roger.
« Monsieur, dit-elle avec véhémence, j'ignore où vous avez l'intention de me conduire, et je ne veux pas abuser de votre générosité, de votre patience. Mais tant que j'aurai la force de marcher, tant qu'il y aura des rues à parcourir, je ne m'arrêterai pas de chercher ma sœur. Laissez-moi continuer mes recherches. Quittez-moi, monsieur, si vous n'avez plus d'espoir. Mais moi, je courrai, je fouillerai les rues, j'appellerai, je crierai, jusqu'à ce que je tombe épuisée. »
Et quittant le bras du chevalier, elle voulut s'élancer. Roger la retint.
« Vous ai-je donné le droit, fit-il avec émotion, de douter de mes intentions, mademoiselle? Ne savez-vous pas que je croirais manquer à mon devoir si je vous abandonnais la nuit dans la rue ?»
Et il ajouta en essayant d'assurer sa voix émue.
« N'avez-vous pas compris, mademoiselle, que j'allais réclamer comme un droit l'honneur de vous protéger contre les dangers auxquels vous vous seriez exposée et d'être votre respectueux cavalier, quel que soit le temps que vous jugiez devoir consacrer à vos recherches ? Et cela, mademoiselle, jusqu'à ce que j'aie eu le bonheur de vous remettre dans les bras de celle qui vous est chère. »
« Monsieur, répondit Henriette, vivement émue par ces généreuses paroles, je mets toute ma confiance en vous. Je suis prête à vous suivre et à vous obéir. Ne prononcez pas ce mot, mademoiselle, devant celui qui ne reconnaît qu'à votre douleur seule le droit de commander. Nous allons, puisque vous le voulez, puisqu'une secrète impulsion vous y pousse, nous allons parcourir d'abord ce quartier. Puis ensuite... »
Il laissa la phrase inachevée, le valet de pied s'avançait pour prendre ses ordres. « Faites rentrer le carrosse à l'hôtel, » commanda-t-il. Désormais, pour le genre de recherche qu'il restait à faire, ce carrosse devenait inutile. En outre, le chevalier de Vaudrey ne voulait pas mettre ses gens dans la confidence de ce qui pourrait arriver plus tard. Il se doutait bien qu'il lui faudrait, dans quelques heures, lorsqu'il n'y aurait plus à douter de l'insuccès qu'il prévoyait, détruire la dernière illusion de sa protégée et lui choisir un asile. Le roulement de la voiture, en s'éloignant, résonna douloureusement aux oreilles d'Henriette. Elle se trouvait seule, la nuit, dans les rues désertes, au bras d'un inconnu. Et malgré elle, un sentiment de pudeur effarouchée se manifesta dans son hésitation à marcher. Mais il suffit d'un regard que lui adressa le chevalier pour qu'aussitôt elle rougît intérieurement de cette pensée que l'attitude si digne de Roger repoussait comme une injure. « Monsieur, dit-elle, je puis marcher maintenant, aussi longtemps qu'il le faudra. » Ils longèrent d'abord les quais, pour faire ensuite des pointes dans toutes les rues adjacentes. Dès qu'il apercevait une fenêtre éclairée, le chevalier appelait le locataire de l'appartement et s'informait. C'était fou, il le savait. Il agissait sans la moindre conviction. Mais pouvait-il, en avouant l'inutilité de ses efforts, laisser le désespoir envahir complètement l'esprit de la malheureuse, qui, après chaque insuccès, retrouvait une énergie nouvelle, pour dire à son compagnon. « Allons encore ailleurs, allons toujours. Qui sait,
si nous ne sommes pas au bout de nos tribulations. » Et l'inutile expérience se poursuivit ainsi jusqu'à ce qu'ayant parcouru les rues, visité les carrefours, pénétré jusque dans les plus sombres ruelles, les deux jeunes gens eurent épuisé leurs forces et vu s'évanouir leur énergie. Alors commença la phase la plus délicate de cette pénible épreuve. Il s'agissait, pour le chevalier de Vaudrey, de faire accepter à la jeune fille un asile pendant la nuit. Pour Henriette, c'était l'isolement qui survenait avec toutes les transes, toutes les terreurs, toutes les angoisses, à peine assoupies par la présence de Roger, et qui allait se réveiller en elle, plus violente que jamais. Elle sentait bien que le moment de la séparation était arrivé, et cependant son esprit s'y refusait, son cœur se serrait à cette idée. Lorsque pour la 20e fois on eut repassé devant ce banc de la place Dauphine, Roger dut se décider à proposer à la jeune fille de lui trouver un logement. Il avait tremblé de voir sa proposition accueillie par des larmes, et c'est avec hésitation qu'il avait dit « Vous avez eu confiance en moi jusqu'ici, mademoiselle, et cette confiance, dont je m'honore, m'enhardit à vous offrir l'hospitalité. Je vous ai promis de vous obéir aveuglément, répondit Henriette avec simplicité. Je ne puis repousser l'offre que vous me faites. Je l'accepte donc, monsieur, et je vous en remercie. » Désormais, Roger pouvait agir ainsi qu'il l'avait combiné. Il connaissait de braves gens, travailleurs peu à l'aise, qui avaient besoin de sous-louer une partie du logement qu'ils occupaient. Dès le lendemain, il se proposait d'y installer la jeune fille. Mais pour cette nuit déjà avancée, il n'y avait que la ressource de l'hôtellerie. Le chevalier dut donc se décider à se faire ouvrir un de ces établissements situés dans une des rues du Marais. Il demanda une chambre et fit apporter de l'eau sucrée, de l'eau de fleurs d'oranger, tout ce qui pouvait, en un mot, procurer à la pauvre jeune fille un soulagement contre l'espace qu'il ne redoutait que trop, prévoyant que cette nuit serait, pour la désespérée, une nuit d'insomnie et de larmes. Henriette l'avait suivie et, défaillante après les fatigues et les émotions qu'elle avait subies, la malheureuse s'était affaissée dans un fauteuil. Elle ne voyait plus rien de ce qui se passait autour d'elle, et pendant ses premières minutes d'anéantissement, elle ferma les yeux. Roger était demeuré silencieux, respectant cette phase nouvelle de la douleur dont il avait eu l'attristant spectacle depuis plusieurs heures. Il restait le front penché, immobile, devant la pauvre créature écrasée par le désespoir. Tout à coup, Henriette se redressa comme si elle eût eu subitement conscience de l'étrangeté de sa situation, comme si sa pudeur se fût révoltée à la pensée de ce tête-à-tête au milieu de la nuit avec ce jeune homme qu'elle connaissait depuis quelques heures à peine. Il y avait une telle expression d'effarement dans les yeux de cette jeune fille, qui se rappelait l'attentat dont elle n'avait été sauvée que par miracle, que le chevalier se sentit pâlir sous ce regard. Il devina que la malheureuse avait en ce moment la vision de cette scène d'orgie du pavillon du Bel Air. Il trouvait Henriette adorablement belle, mais il ressentait autant de respect pour sa douleur que d'admiration pour sa beauté. Et s'inclinant devant elle, il dit, comme s'il se fût adressé à quelque fille de grande maison, « Me permettrez-vous, mademoiselle, de prendre congé de vous? Me ferez-vous la grâce de m'autoriser à venir, demain, mettre de nouveau tout mon dévouement à votre service ?» Henriette ne put contenir son émotion, et dans un élan de reconnaissance, elle tendit la main vers Roger. Mais au lieu d'y appuyer ses lèvres, comme il l'eût fait sur les doigts d'une dame de son monde, il y appuya légèrement son front, comme s'il l'eût fait sur la main d'une sainte vénérée.